Alors, la semaine dernière, j'ai commencé mon message avec une image. Vous vous souvenez de cette image? Alors, ceux qui n'étaient pas là, elle est là. À quoi ça vous fait penser, cette image? Un feu d'artifice. Et effectivement, j'ai choisi cette image pour parler de la Pentecôte. Et j'ai choisi un feu d'artifice. Pourquoi? Parce que au cours de la Pentecôte, il s'est passé quelque chose d'absolument exceptionnel. Et c'était une sorte de spectacle son et lumière. Je vais y venir dans quelques instants. En tout cas, il se passe quelque chose de fondamental dans le livre des Actes. Et c'est le livre qu'on est en train d'étudier dans le chapitre 2. Et ce n'est pas simplement un moment charnière du livre des Actes, mais c'est un moment charnière dans l'histoire de la rédemption. Vraiment. C'est un moment où il va y avoir un changement d'alliance. On va passer d'une alliance à l'autre, et donc c'est une période transitoire. Tout le livre des Actes est une période transitoire. Donc il y a des choses extraordinaires qu'on va retrouver dans les épîtres, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas à imiter, parce qu'elles sont uniques, elles ont été faites le jour du feu d'artifice. Vous voyez ? Et donc, pourquoi j'ai choisi donc un feu d'artifice ? Parce qu'en général, un feu d'artifice attire l'attention du public. Lorsqu'on est participant d'un feu d'artifice, nos yeux sont bloqués, ouverts et on bave, presque. En tout cas, on est vraiment ébahi et on pousse des « waouh », des « oh hein, », et on est comme ça et on peut se laisser impressionner par ça. Mais attention, il ne faut pas détourner le sens d'un tel spectacle. Le feu d'artifice en lui-même, ce n'est pas une finalité, d'accord ? Un feu d'artifice est créé pour quelque chose, pour marquer le coup, pour attirer notre attention sur un événement particulier. Alors aujourd'hui, on fait des feux d'artifice pour célébrer un anniversaire, une nouvelle année, une inauguration d'une œuvre ou l'ouverture d'un sport ou de je ne sais quoi, d'une grande compétition. Et donc, l'erreur serait de vouloir imiter le feu d'artifice au lieu de comprendre la raison pour laquelle l'organisateur a planifié ce feu d'artifice. Et donc, si on transpose à la Bible, eh bien, la semaine dernière, j'ai montré qu'au moment où Dieu mettait en place une nouvelle alliance avec les hommes, eh bien, il y avait toujours une sorte de feu d'artifice divin, un spectacle, son et lumière. Et donc, à la Pentecôte, on n'y échappe pas. C'est une transition et c'est le passage d'une alliance à une autre. Et donc, j'avais relevé trois aspects. Donc, je fais un petit résumé, finalement, de la semaine dernière. Donc ça, c'était le titre du message, mais j'avais relevé trois aspects. La première, c'était la souveraineté de Dieu lors de la venue de l'Esprit. Au début du chapitre 2, on voit que c'est Dieu qui choisit souverainement d'envoyer l'Esprit, et il n'a pas choisi une date au hasard, il a choisi une date qui était porteuse de sens pour les Juifs. Un jour de fête nationale. Vous voyez, si vous êtes français, ce serait un genre de 14 juillet. Là, c'était pour les Juifs, et donc il y avait trois grandes fêtes. Ça, c'est la deuxième après la Pâque. C'était la fête de Pentecôte. Là, à la Pentecôte, on célébrait le don de la loi de Dieu, donc qui a été donnée sur le mont Sinaï, et de la terre promise. On donnait les prémices de nos récoltes à cette période-là. Et ça va devenir, donc Dieu va transformer cette fête en symbole du don de l'Esprit et de l'évangile de la grâce. Dieu va transformer cette fête. Les promesses, comme il l'a fait avec la Pâque d'ailleurs, hein, il y avait la Pâque juive, eh bien Jésus va transformer cette Pâque juive et il va nous demander de maintenir ce signe-là. Et le signe de la Pâque, c'est ce qu'on a aujourd'hui dans la Sainte Cène, le pain et le vin. Le pain, c'est le corps de Jésus, c'est plus un agneau. Maintenant, c'est Jésus lui-même, l'agneau. Et donc, quand on prend du pain, c'est pour représenter le corps brisé de Jésus à la croix. Et ensuite, ce qui va sceller l'alliance, c'est son sang. Et vous voyez, donc on maintient ce signe de l'alliance. Jusque-là, les promesses étaient réservées à un seul peuple, à Israël, avec une seule loi, la Torah, et dans une seule langue, c'était l'hébreu. On célébrait le culte en hébreu. Et donc, à partir de la Pentecôte, tout va changer. il va y avoir une universalité qui va s'ouvrir ici. Et donc le salut va être ouvert à toutes les nations et plus seulement au peuple juif. On voit qu'il y a des exceptions dans l'Ancien Testament, mais quand même, la majeure partie du temps, on venait par Israël. Et donc, il y avait un seul pays, une seule nation, et on va passer à toutes les nations. Ça, c'est la transition de la Pentecôte. Il y avait une seule loi, et maintenant, il y aura toujours une loi, mais elle va être gravée dans tous les cœurs. Donc, tout le monde va recevoir, en recevant l'Esprit, va avoir cette loi gravée à l'intérieur de lui-même. Et puis, et ça c'est le phénomène des langues, c'est pour nous montrer que ça va être toutes les nations, et donc dans toutes les langues, plus seulement en hébreu, on peut adorer le Dieu créateur, le Dieu d'Israël, dans toutes les langues, à partir de ce moment-là de la Pentecôte. Et donc il va y avoir des symboles qui vont marquer finalement cette alliance. Et donc c'était le deuxième point que j'avais abordé. C'était les manifestations extraordinaires de la venue de l'Esprit. Et j'avais retenu trois éléments importants sur les manifestations surnaturelles à la Pentecôte. La première, c'est que c'était une manière d'attirer l'attention des Juifs sur la source du miracle, sur Dieu lui-même. Les phénomènes surnaturels auxquels ont été confrontés les disciples, c'était... Vous l'avez entendu, le vent violent, donc un bruit, donc ça c'est le son, ok. Et ensuite il y a la lumière, il y a des sortes de flammes de feu qui sont descendues sur, au-dessus de la tête des disciples. Ça c'est la lumière. Et puis bien sûr il y a encore le phénomène des langues, du parler en langue, j'y viendrai dans quelques instants. Mais en tout cas, tous ces phénomènes-là, à chaque fois que Dieu fait une alliance, il fait ce genre de spectacle, son et lumière, et on avait regardé chez Abraham et chez Moïse, et c'est la même chose. Mais ce sont des choses extraordinaires qu'on ne peut pas reproduire. Quand c'était le don de la loi, il y a eu ce tonnerre, il y a eu de la fumée qui sortait de la montagne, il y avait la voix de Dieu, et des éclairs dans le ciel. Ça, aucun humain ne peut les produire. Vous pouvez être le meilleur magicien de la planète, vous ne ferez pas apparaître un éclair dans le ciel. D'accord ? Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ces phénomènes. Eh bien, à la Pentecôte, c'est la même chose. Des flammes de feu qui descendent. Alors, on sait que ce n'est pas exactement ça. C'est comme des flammes de feu. Vous voyez, ça s'en ressemblait à... Mais on a du mal à décrire. Luc, quand il écrit son récit, il a du mal à décrire ce que c'est exactement. Pas parce que c'est quelque chose de surnaturel. Et on explique un miracle avec nos mots à nous. Mais vous voyez que c'est difficile. Et donc, tout ça pour dire que la Pentecôte, Dieu vient poser son sceau. C'est un petit peu comme sur les étiquettes de bouteilles, c'est marqué AOC, hein, appellation d'origine contrôlée. Ben là, c'est un AOD. Hein, la Pentecôte, Dieu vient mettre son sceau, appellation d'origine divine. D'accord ? Et donc, deuxième élément que j'avais relevé, c'était donc sur la manière d'attirer l'attention des Juifs, c'était sur la nature de leur relation avec Dieu. Dans les moments clés, Dieu fait des miracles, pas pour faire des miracles, il fait des miracles pour amener ses enfants à la repentance, pour amener ses enfants à une saine crainte et une sainte crainte de son nom. Et quand on parle de crainte, on ne parle pas de peur, et je vous mets ici, non il n'est pas, mais je vous rappelle juste le verset 20 de Exode, donc Exode chapitre 20, verset 20, et on a ce texte, il dit, c'est pour, donc le but, il explique le but de tous ces miracles qu'il fait au moment où il donne la loi, c'est pour que vous ayez pour lui, donc pour Dieu, de la crainte afin de ne pas pécher. Vous voyez, on a là l'objectif. On sait pourquoi Dieu met en place un feu d'artifice divin. Il est là pour montrer que personne ne peut imiter ce qu'il fait. Donc on sait d'où ça vient d'en haut. Et ensuite, il explique pourquoi. Et son désir, c'est vraiment d'arriver à amener l'homme plus proche de lui. Ou en tout cas, de révéler où il en est dans sa relation avec lui. Et vous savez, on n'en a pas parlé, mais... Quand on lit Exode, à partir du chapitre 32, donc il va y avoir une énumération. Donc Moïse va recevoir toutes les lois cérémonielles, cultuelles et d'hygiène, enfin d'alimentation. Et donc du coup, il va avoir 12 chapitres dans le livre d'Exode. Et quand on arrive au chapitre 32, on voit que Moïse était loin, il était sur la montagne, il recevait toutes ces instructions-là et il allait redescendre. Et comme il tardait un peu, vous savez ce qui s'est passé ? Le peuple a demandé à Aaron, qui était le porte-parole de Moïse, il a demandé un veau d'or. Et là, on voit tout de suite où en était le cœur, et le cœur des Israélites. Et donc, il a fallu 40 ans, 40 ans d'errance dans le désert pour arriver à faire changer le cœur de ces Israélites. Et finalement, quand il y a une alliance, Dieu fait tous ces miracles, mais c'est aussi pour révéler où on en est dans notre relation avec Dieu. Et ça, c'est fondamental. Troisième élément, pourquoi Dieu avait fait ces miracles, pourquoi c'était une manière d'attirer l'attention des Juifs, eh bien, c'était sur l'alliance et non sur les miracles. Alors, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais les manifestations surnaturelles ne sont pas à imiter. On ne nous demande pas, et Dieu ne nous demande pas d'imiter la descente des langues, même le parler en langue. On ne nous demande pas d'imiter ça. Pourquoi ? Pas parce que ça vient de Dieu. C'était un miracle extraordinaire. Et donc, du coup, ce qu'on doit reproduire, nous, c'est le signe de l'alliance. D'accord ? Mais pas le feu d'artifice. Dieu va nous donner derrière des signes pour lequel on doit se remémorer cet événement-là. Il a donné la fête de la Pâque. Eh bien, nous, on a la Sainte Cène aujourd'hui pour nous remémorer de ce que Jésus est venu faire, le Messie qui est venu prendre le péché, remplacer cet agneau et devenir finalement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans l'Ancienne Alliance, c'est exactement la même chose. Dieu a mis en place avec Abraham un signe de l'alliance, c'était la circoncision. Et avec Moïse, c'était le respect de la loi. Et donc, vous voyez, ça, c'était les signes de l'alliance. On devait respecter ces choses-là. Alors, c'est plus compliqué avec les signes de l'alliance que simplement un découpage de prépuce. Hein. Mais, vous voyez, et on arrive ici dans cette nouvelle alliance. Et donc, Dieu va manifester à un moment donné, c'est dans le verset 4, donc alors c'est le troisième point, dans le verset 4, il va envoyer son esprit. Et regardez ce que dit le texte, les disciples qui reçurent l'Esprit Saint se mirent à parler en d'autres langues. Et là on voit un lien entre la venue de l'Esprit et le parler en langue. Eh bien du coup, de quoi on parle ? Et je reprécise ce matin de quoi on parle. En fait, il y avait des milliers de juifs, des dizaines de milliers de juifs qui étaient venus pour la fête de Pentecôte à Jérusalem. C'est pour ça que Dieu organise quelque part ce changement d'alliance à ce moment-là. Il voulait qu'un maximum de juifs soient touchés et soient interpellés par ce qu'il était en train de se passer. Habituellement, les juifs célébraient donc le culte de Yahweh en hébreu, d'accord ? Donc tous les juifs avaient l'habitude, quand on lisait la Torah, c'était en hébreu. Et donc du coup, on communiquait en hébreu. Tout le lien avec le culte se passait en hébreu. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il y a 120 disciples qui sont là, et eux, ils louent Dieu, mais dans la langue de tous ceux qui étaient là. Et il y avait des gens qui venaient de 15 nations différentes. Alors, il y en a probablement plus, mais il y en a 15 qui sont mentionnés. Et c'est même pas forcément un pays différent, mais c'est le mot « dialectos » en grec. Et « dialectos », c'est les dialectes. Et voyez qu'on peut changer de région, même ici, en habitant pas très loin, il y en a qui vont parler allemand. Si vous faites 100 km depuis Genève, vous allez arriver dans le canton bernois, et là, déjà, il y a des gens qui parlent suisse-allemand. Et puis, si vous allez un petit peu du côté de l'Italie, on va avoir des gens qui vont parler l'italien ou le suisse-italien, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, c'est un dialecte régional, et là, il y en a 15 qui sont cités. Et quand ces juifs qui n'ont pas d'instruction, parce que c'est ce que dit le texte, étaient des paysans, des bouseux, entre guillemets, on dirait ça comme ça, des gens pas instruits. Mais attends, c'est des Galiléens, ils n'ont pas fait d'études, ils ne connaissent rien tous ces gens-là, ils n'ont pas étudié la Torah, vous voyez. Et pourtant ces gens-là, peu instruits, qui n'avaient pas été à l'école, qui n'avaient jamais appris aucune langue, ils parlaient distinctement dans la langue de ceux qui étaient là. Et donc eux, ils parlaient l'hébreu et la langue de leur pays. Hein, ils étaient multilingues, ils adoraient Dieu en hébreu et ils recevaient ces paroles-là. Et ils entendaient dans leur langue natale et là ils ont dit « mais c'est hallucinant ». Vous voyez, ce n'était pas un balbutiement de n'importe quoi. Il y avait vraiment une structure, c'était vraiment un langage, c'était une langue terrestre. Et c'est ce qu'on appelle cette faculté-là de parler dans une langue étrangère, une vraie langue, c'est la xénoglossie. Xéno, hein, c'est étranger, et glossie, c'est la langue, donc c'est la langue étrangère. Parler dans une langue étrangère. Et il y a un autre phénomène. Alors, c'est un phénomène global qui s'appelle la glossolalie, le parler en langue. Et dans la glossolalie, il y a la xénoglossie. Mais la glossolalie, c'est le fait de parler une langue qui n'est pas forcément une langue articulée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une sorte de balbutiement. Et ça s'observe un peu partout sur la planète, dans toutes les religions. J'en avais cité la dernière fois, et là, je vais en citer d'autres. Florent Varac dit dans son podcast que Platon, il fait lui-même référence à des paroles extatiques, inintelligibles, tout comme Virgile dans l'Énéide. Et vous voyez que là, on est dans l'Antiquité, bien avant Jésus-Christ. Il y avait déjà ce genre de phénomène. Mais il poursuit, la glossolalie est apparue dans les religions à mystère éleusinienne, dionysiaque et orphique, ainsi que dans les anciens cultes de Mithra et d'Osiris. Les Sibylles et les Pythies étaient également connues pour leur pratique de la glossolalie et de la parole extatique en état de transe. Donc vous voyez que ce n'est pas ce genre de parler en langue, on ne parle pas de la xénoglossie, mais de la glossolalie. Donc vous voyez, j'ai différencié les deux. Eh bien ce genre de parler en langue, il est partout en fait, dans toutes les religions et bien au-delà. Comme Luc lit la réception du Saint-Esprit, et c'est le verset qui est sous vos yeux ici, comme il lit la réception du Saint-Esprit avec le parler en langue, eh bien, on a nos amis pentecôtistes, et que je respecte profondément, hein, parce que j'ai des amis qui sont pentecôtistes, et sur ce point-là, on n'est pas d'accord, mais eux, ils en déduisent que le parler en langue qui s'est passé à ce moment-là était le signe initial du baptême de l'Esprit. Et là où il y a une confusion, c'est que ils vont transposer la glossolalie qu'ils pratiquent, hein, la plupart des pentecôtistes parlent dans une langue inarticulée. Si vous avez été dans des églises, vous savez comment ça se passe. Moi-même, j'ai parlé en langue de cette manière-là. Et il n'y a pas de vocabulaire, il n'y a pas de syntaxe. C'est vraiment émotionnel, quelque part. Alors, je ne veux pas réduire ici la glossolalie, mais quand même, il y a un phénomène ici qui est très humain. Et donc, du coup, ce parler en langue-là est transposé avec le signe du Saint-Esprit qui était là et qui était de la xénoglossie. Et là, ce qui me dérange profondément, et c'est pour ça que j'ai exposé 12 raisons pour lesquelles le baptême du Saint-Esprit n'était pas une preuve de la présence du Saint-Esprit. 12 raisons. Si vous voulez savoir davantage, ben je vous invite à écouter le message de la semaine dernière. Alors, on en plaisante entre nous, hein, mais si je l'ai fait, c'est parce que ça crée finalement au sein du corps de Christ deux genres de chrétiens, deux niveaux, deux classes. Et ça, c'est à bannir, les amis. Vraiment. Parce que celui qui parle pas en langue, même au sein d'une église pentecôtiste, on le regarde d'un peu haut et puis on dit « Ah, c'est dommage, il te manque juste un petit quelque chose ». On me l'a dit bien souvent et des amis en plaisantant m'ont dit « Vous, les évangéliques, conservateur entre guillemets, lorsque vous creusez un trou, vous le faites à la petite cuillère, nous on le fait avec la puissance d'un bulldozer. Hein ? » Ou alors, j'ai entendu encore plus drôle, ben nous, vous savez, on va tous ensemble sur la tour Eiffel, mais nous on monte en ascenseur et vous à pied avec les escaliers. Donc vous voyez, pour dire qu'il y a deux niveaux. On va tous au même endroit, mais on n'y va pas de la même manière. Vous voyez ? Et c'est un peu condescendant. Et c'est pour ça que là, je pense que c'est dangereux. Et c'est pour ça que j'ai dénoncé cette pratique-là et cette confusion qui est faite, parce que dans le livre des Actes, on ne parle pas de glossolalie, on parle de xénoglossie. Alors c'est une forme de glossolalie, mais elle est très précise, c'est un parler dans une langue étrangère, et ça, mes amis, vous ne pouvez pas l'imiter, c'est un miracle. Si je vous parle en suisse-allemand maintenant, je peux vous assurer que ça sera un miracle, je n'ai jamais appris le suisse-allemand de ma vie. Alors je ne vais pas le faire. Parce qu'on n'est pas appelé à le faire. Alors ce matin, on continue notre exploration du texte. C'était utile que je rappelle toutes ces choses. Donc là, vous avez une petite synthèse, parce qu'en fait, c'est dans la continuité. D'accord ? Et donc, j'ai rappelé ces trois premiers points. Et aujourd'hui, on va regarder les trois suivants. Et donc, c'est trois choses essentielles à connaître sur la venue de l'Esprit. Et je vais remonter un petit peu en arrière, au verset 6, parce que ça part de là. Et donc les trois choses essentielles, c'est simplement les réactions devant la venue de l'Esprit, l'explication de la venue d'Esprit et l'objectif de la venue de l'Esprit. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien c'est le moment d'ouvrir les oreilles, vous qui vous êtes endormis parce que j'ai fait répéter ce que j'ai dit la semaine dernière. Premier point, les réactions devant la venue de l'Esprit. On va lire le texte. Verset 6. « Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ?» Gens sans instruction. Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, et j'ai sucré les 15 qui étaient mentionnés pour arriver au verset 11. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Et là, encore une fois, c'est le mot dialectos, dans nos dialectes. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, mais que veut dire ceci ? Et on arrête la lecture ici. Franchement, je ne sais pas comment vous réagiriez si vous étiez au cours d'un voyage, on va dire, en Papouasie, au fin fond de la Papouasie, si vous entendiez un papou de Nouvelle-Guinée louer Dieu dans un parfait français, sans accent, sans faute de syntaxe, alors qu'il n'a jamais appris le français, qu'il n'a même jamais été à l'école. Comment vous réaliseriez cela ? Qu'est-ce que ça provoquerait en vous ? Vous entendez Molière qui vous parle alors qu'il n'a jamais appris le français. Ça vous laisse... Vous seriez comme ça ?
Bah ouais.
Mais franchement, mais moi je serais ébahi, je serais estomaqué, je serais stupéfait. Et ce serait normal, ce serait normal. Tout le monde, finalement, devant un spectacle miraculeux, devrait être émerveillé du spectacle, ou en tout cas... surpris, étonné, voyez. Et c'est un petit peu ce qui est décrit dans ces termes des versets 6 à 12. Je les ai relevés ici, juste en une phrase. Le terme « bouleversé », il est dans le texte, et en parlant des Juifs, hors d'eux-mêmes, c'est-à-dire étonné, stupéfait, ou dans l'admiration, perplexe, voyez. Perplexe, c'est une réaction, les amis. C'est pas simplement « oh ». Non, non, c'est vraiment quelque chose qui nous laisse perplexes, on ne sait pas trop ce qui se passe, vous voyez. On est intrigué, c'est aussi dans le texte. Et donc tous ces éléments sont normaux, quelque part, c'est humain, d'accord. Et je pense que quand ils ont vu ce spectacle-là, ils devaient être vraiment bluffés. Et là, quand on est devant un miracle aussi extraordinaire, le danger, ce serait de croire que en fait, on en reste là. Et on est juste... Nous, on s'imagine la plupart du temps que quand on est face, ou quand les gens sont face à un miracle, ils vont croire. Et bien souvent, on se dit, ah, si seulement Dieu pouvait faire un miracle, il changerait d'avis. Hein ? Quand il y a un collègue de travail qui se moque de vous sur un truc, vous aimeriez faire comme Élie, faire descendre le feu du ciel. Tiens, regarde ! Tu vois bien que Dieu existe. Hein ? On aimerait bien faire ça. Et on s'imagine que parce que Dieu va faire descendre le feu du ciel, les gens vont se mettre à genoux et prier le Seigneur, oh, rentre dans ma vie. Ouais. Ça, c'est ce qu'on croit. Et vous savez qu'il y a même des gens qui utilisent Jean 2, 23. C'est un texte qu'on a lu, ceux qui étaient à l'étude biblique cette semaine. Ils utilisent un verset de la Bible en disant, mais regarde, c'est écrit noir sur blanc. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Effectivement, quand on lit ce verset, on se dit, mais voilà ce qu'il nous faut pour avoir une évangélisation efficace, faisons des miracles, organisons des soirées, miracles, guérisons, et on va avoir plein de gens qui vont venir, d'accord ? Et il y en a qui font ça, parce qu'ils prennent ce verset. Si on pointe, les amis, sur quelque chose qui vous semble étrange, qui n'est pas totalement orthodoxe, mais vous ne savez pas trop le défendre, ben prenez votre Bible, lisez ce qu'il y a un peu avant, lisez ce qu'il y a un peu après, vous aurez la réponse la plupart du temps. Alors parfois, ça demande, pas nécessairement, mais souvent, de lire un chapitre ou deux chapitres avant. Quand on vous braque sur le parler en langue en disant « Mais regarde, le parler en langue, c'est pour l'édification de soi. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ah, tiens !» ça veut dire qu'il y aurait des gens qui seraient capables de s'édifier soi-même, mais pas tout le monde. Parce que juste avant, il a dit qu'on n'avait pas tous le même don, et que le parler en langue faisait partie des dons comme le reste, mais que, en fait, tous les dons étaient là pour l'édification des autres. Et je me suis amusé à relever chaque fois que les dons étaient appliqués pour les autres, 14 fois, entre le 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. 14 fois, les amis, où Paul, il martèle la chose parce que les Corinthiens étaient égoïstes, centrés sur eux, et ils faisaient tout pour leur édification personnelle. Hein, ils aimaient que ça mousse, ils aimaient voir ces choses. Mais Dieu, il est en train de lui dire, là, les amis, ce que vous faites, ça, c'est pas bon. Voyez. Et donc, quand on dit que le don du parler en langue, c'est pour son édification personnelle, et ben on fait exactement ce qu'on fait avec ce verset-là. On l'isole. Regardez ce qu'il y a juste après. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, à ces gens qui avaient cru parce qu'il avait fait des miracles. Car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes car il connaissait le fond de leur cœur. Et voyez, ici Jésus, il montre que ce n'est pas le fait de voir un miracle qui va changer le cœur. Ces gens croyaient vraiment, ils croyaient, mais d'une manière superficielle. Ils croyaient en Dieu. Hein, vous avez plein de gens autour de vous qui croient en Dieu, et vous pouvez dire, ah, ce sont des croyants. Oui, comme eux. Ce sont des gens qui croient en Dieu parce qu'eux, ils leur donnaient à manger. Jésus faisait des miracles, il donnait à manger à des foules. Hein, donc les gens, ils le suivaient. Il n'y a pas que ce texte qui en parle, il y en a d'autres. Mais en tout cas, ils louaient Dieu, ils croyaient Dieu parce que tout allait bien dans leur vie. Parce que Dieu ne leur demandait pas grand-chose, ne leur demandait pas de changer toutes leurs habitudes dans leur vie. Voyez, à partir du moment où une épreuve est là, à partir du moment où Jésus va devenir plus exigeant, il n'y aura plus personne. Plus personne. En fait, la foi biblique, c'est une foi qui nous conduit à l'obéissance et surtout à faire confiance à Dieu. C'est-à-dire qu'on ne croit pas simplement en Dieu, on croit Dieu sur parole. Vous voyez la différence entre croire en Dieu et croire Dieu sur parole. Si je vous dis, et que je suis un maître de la météo, demain il va pleuvoir, vous pouvez m'entendre et dire à tout le monde, demain il va pleuvoir, et vous partez le lendemain sans votre parapluie, eh bien vous croyez en moi, mais vous ne me croyez pas sur parole parce que vous n'avez pas pris votre parapluie. Vous voyez, ben c'est exactement ça. Ces gens-là, ils croyaient en Jésus, ils croyaient parce qu'ils avaient vu des miracles, mais derrière, il n'y avait rien, c'était creux. Et à la moindre épreuve, plouf, plus de foi. Il y a quelqu'un qui s'appelle George Winston, c'est un professeur de théologie, qui a rassemblé tous les miracles dans le Nouveau Testament et il a fait une statistique. Moi, j'aime bien, je suis un matheux, j'aime bien les statistiques. Et regardez, sur 93 passages évoquant un miracle du Christ ou des apôtres, seulement 6 indiquent que les témoins de ces prodiges crurent à cause du miracle. Dans les autres cas, ces signes produisirent de la curiosité, 11 fois, de l'étonnement, 24 fois, de l'admiration, 4 fois, de la crainte, 13 fois, aucun effet, 4 fois, de la jalousie et de l'opposition, 17 fois, et de la foi, 6 mentions. Vous imaginez ? 6 cas sur 93, 6 cas sur 93, ça fait 6,45%. Alors ça ne veut pas dire que des gens ne croient pas, mais 6,45%, ça ne fait pas beaucoup. Ça ne fait pas beaucoup. En fait, la présence des miracles, elle va accentuer la responsabilité des incrédules, mais ne va pas forcément les amener à la repentance et à la foi. Dans notre cas, les Juifs, et là, on se situe 3 ans après, et c'est probablement les mêmes. Des gens qui ont suivi Jésus, mais avec ce genre de foi. Et donc, ils sont là, et ils vont réagir, ces gens. Ils vont réagir. Mais de manière émotionnelle. Ils ne vont pas forcément se tourner vers Dieu. Pourquoi ? Ben parce que les miracles ont besoin d'être soutenus par une explication des faits. Et c'est ce qui m'amène au cinquième point. Au cinquième point, alors c'est le deuxième pour vous, l'explication de la venue de l'Esprit. Les premiers à interpréter ce qui se passe sont les témoins oculaires et ce sont des juifs pieux. Regardez ce qu'ils disent, ce qu'il dit au verset 12. Tous étaient hors d'eux-mêmes, c'est-à-dire intrigués, stupéfaits et perplexes et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? cette expression, elle montre qu'il cherchait une explication du phénomène, mais qu'il n'en avait aucune. D'accord ? Il cherchait à rationaliser quelque part ce qui se passait, mais ils étaient là, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? En fait, ils ne savaient pas. Personne ne leur avait expliqué. Ils sont là. Ce n'est pas dire que c'est des méchantes personnes, mais ils sont, voilà, ils ont découvert un œuf au milieu de l'univers et ils se demandent qui a créé cet œuf, l'œuf ou la poule. Vous voyez, c'est un peu ce genre de truc. Qui est au responsable de ces phénomènes ? C'est un peu comme lorsque, vous savez, vous avez déjà vu probablement des prestidigitateurs qui font un tour de passe-passe assez impressionnant. Mais quand ils le font sous vos yeux et que vous n'avez pas vu ce qui se passe, vous cherchez à savoir, mais comment il a fait ? Le gars, il prend une personne dans le public, au hasard, il va lui demander son numéro de téléphone, il lui demande de signer une carte, ensuite il met la carte dans un jeu, et puis il fait apparaître des ballons qui tombent du ciel, et boum, il éclate un ballon, et du ballon, il sort la carte avec le numéro, et là on se dit, comment il a fait ? Vous voyez, et c'est un petit peu ça, c'est sous leurs yeux, ces juifs-là voient ce miracle et ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Quesaco, comme on dirait dans le sud-ouest. Ça, c'est une catégorie de juifs. Regardez le verset 13. On a une deuxième catégorie. Mais d'autres se moquaient et se disaient, mais ils sont pleins de vin doux. Vous voyez, eux, ils interprètent aussi le miracle. Mais ils vont porter un jugement. Il y en a qui sont là, ils ne savent pas, ok ? Ça, c'est les agnostiques. Et il y a ceux qui se moquent. Ça, c'est les athées revendicateurs. D'accord ? Donc, eux, ils regardent et disent, ah non, mais attends, mais ils sont bourrés, les gars, là. Et Pierre va démentir ça, mais immédiatement. Il dit, mais ils ne sont pas bourrés. Ils ne sont pas bourrés. Il est 9h du matin. Ils n'ont pas été faire la fête la veille, ils n'ont pas encore commencé à boire. Donc ce n'est pas possible. À 9h du matin, ils ne sont pas ivres. Donc il y a quelque chose d'autre. Mais vous voyez, le fait de voir un miracle et d'y attribuer quelque chose de banal ou quelque chose même de mauvais quelque part. Quelqu'un qui est ivre, ce n'est pas joli. Eh bien, on prend quelque chose de beau et on le ternit, on le salit. Et vous savez, c'est ce que faisaient les pharisiens. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils ont vu des miracles sous leurs yeux. Eh bien, au lieu de dire, parce que c'était une évidence que ça venait de Dieu, ils ont attribué ces œuvres, non pas à Jésus et à Dieu, mais au diable. C'est par Belzébul qui fait ces miracles, alors que c'était une évidence que personne ne pouvait imiter les miracles de Jésus. Et voyez, on a le même genre de candidat ici. C'est des gens qui voient le miracle et qui disent, oh, ils étaient bourrés ces gars. Ils étaient bourrés. Maintenant, on va observer une autre explication, c'est l'apôtre Pierre. Donc, vous voyez, on voit des gens qui cherchent une explication. Et maintenant, on va voir Pierre, la réponse de Pierre. C'est bien sûr celle qui nous intéresse, parce que c'est la seule qui est vraiment éclairée. Lui, il est animé du Saint-Esprit. Il vient juste de descendre sur lui. Et donc, il va donner une explication. Ça ne veut pas dire que ça va être simple, l'explication, mais il va la donner. D'accord ? Et qu'est-ce que fait Pierre ? Verset 14. Alors Pierre, debout avec les onze, éleva la voix et s'exprima en ces termes, « Vous, juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Moi, je crois qu'ils sont prêts, là. Avec tout ce qu'ils ont eu avant, ouf. Là, ils sont prêts à écouter parce qu'ils veulent savoir. « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. » Et vous voyez, tout de suite, il vient saper un petit peu cette interprétation sarcastique. Et c'est ce détournement, finalement, du miracle. En fait, les miracles qu'a fait Jésus, c'est un petit peu comme un apéritif, un amuse-bouche. C'est un peu l'introduction d'un message. C'est ce qui vous donne envie d'écouter la suite. C'est ce qui se passe ici. Vous voyez cette expression quand il dit « Vous tous qui séjournait à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Il y a eu une super introduction avant. Je crois qu'on a fait un beau spectacle. Maintenant, tu peux écouter. Parce que finalement, ce n'est pas le spectacle qui compte. C'est ce que je vais dire maintenant. Et voyez, finalement, le clou du spectacle, ce n'est pas le parler en langue. Le clou du spectacle, ce n'est pas les langues de feu qui descendent. Le clou du spectacle, ce n'est pas un miracle. Le clou du spectacle, il va le pointer. Ça va être Jésus. C'est Jésus le clou du spectacle. Et c'est sur lui qui va focaliser ses attentions et aussi sur la nouvelle alliance. Ben, sans Jésus, il n'y a pas de nouvelle alliance. Donc vous voyez, il y a un lien immédiat entre les deux. Donc il va maintenant développer ces deux idées et c'est ce qu'il fait en citant ce texte de Joël. Donc un prophète, ce qu'on appelle un petit prophète puisqu'il a écrit des courtes prophéties. Mais ce n'est pas qu'il est plus petit que les autres, c'est simplement qu'il n'a pas écrit de grands récits comme Ésaïe ou Ézéchiel ou Jérémie. Regardez ce que dit Pierre, et il va relever une prophétie qui va orienter les Juifs, et tout le monde était attentif quand on parlait de ces choses. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël, et là il a un public juif, les amis. Quand on a un public juif, quand on évangélise, qu'est-ce qu'on fait? On va sur leur terrain. Et qu'est-ce que fait ici Pierre? Il va sur le terrain des Juifs qui connaissaient bien la Torah. Et donc il va citer la Torah. Nous, on ne va pas forcément citer Joël quand on va présenter l'évangile à quelqu'un, parce que ce n'est pas son domaine de référence. Ben, lui, c'est ce qu'il fait ici. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Vous voyez, Pierre cite un texte prophétique qui concerne les derniers jours. Et ça, c'était une expression courante et connue dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi quand un juif entendait cette expression, il savait que ça désignait le temps où le Messie viendrait établir son royaume. Et il y a plein de citations, je les ai là, mais je ne vais pas les lire ce matin. En fait, les juifs avaient du mal à distinguer entre le règne terrestre et le règne céleste du Messie, entre sa première venue et sa seconde venue. Et même quand on lit le texte, on voit qu'on parle d'une période, hein, au début, c'est dans les derniers jours, et après on va parler d'un autre jour, qui n'est pas du tout le même, avant que vienne le jour du Seigneur. Et voyez ici, entre les deux, il y a peut-être 5000 ans. Au moins 2000, parce qu'on est 2000 ans et quelques après Jésus-Christ. Voyez. Mais dans les derniers jours, ça concerne la venue du Messie, d'accord ? L'instauration, mais on ne sait pas laquelle. Quelque part, ils étaient un peu confus. Les Juifs, ils savaient très bien que le Messie allait venir comme un serviteur souffrant. Hein ? Ils lisaient Ésaïe 53 et c'était clair pour eux, on parlait bien du Messie. Ils savaient que ce Messie allait souffrir, qu'il allait donner sa vie en rançon pour nous. C'était écrit et ils le savaient. Mais en même temps, ils avaient d'autres textes sur le Messie et ils croyaient que ce roi, ce Messie allait venir comme un roi triomphant, un Messie glorieux qui viendrait établir son règne terrestre avec un sceptre de fer, Ésaïe 9:7, et ensuite son règne sur l'ensemble de la création. Et alors là, il y a moult textes qui en parlent. Mais en fait, quand les Juifs, ils avaient ces deux éléments, c'était clair. Ils savaient que ça, c'était le Messie, mais ils ne savaient pas comment l'agencer. Comment il allait arriver? Est-ce qu'il allait d'abord venir en Messie souffrant? Est-ce qu'il allait d'abord venir en Messie régnant? Et donc, du coup, c'était un peu confus. Et quand Pierre, cite ce texte-là, je ne suis pas sûr que lui, même dans sa tête, c'était si clair que ça. Les deux indices qui me font arriver à cette conclusion, c'est que la première, c'est dans Actes 1:6. Vous vous souvenez, il était avec les 12, enfin les 11, et il interpelle Jésus en lui demandant « Mais au fait, Jésus, là, c'est quand que tu vas venir? C'est dans cette période que tu vas venir instaurer le royaume d'Israël ?» Vous voyez ? Et là, ils n'ont rien capté, mais rien. Parce que là, ils pensaient que maintenant que Jésus était mort et qu'il avait souffert, immédiatement, il allait instaurer son royaume terrestre. Et c'est pour ça qu'ils posent la question. Et parce qu'ils croyaient que ce Messie-là allait botter les Romains hors de la terre d'Israël, voyez. Et donc, ils étaient tous avec ces attentes-là, et vous voyez, ils ne faisaient pas la nuance Et ils n'avaient pas encore complètement en tête le règne de l'Église. En fait, là où justement toutes les nations allaient être atteintes par l'Évangile. Quand on lit, et ça c'est le deuxième argument, le deuxième indice, c'est que lorsque Pierre écrit dans son épître, donc épître de Pierre, chapitre 1er verset, et 1 Pierre, pardon, 1er épître, chapitre 1er verset 20, il dit « Christ fut manifesté à la fin des temps à cause de vous ». Et donc, vous voyez, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et il y en a beaucoup d'autres dans le Nouveau Testament, quand il parlait de la période juste après l'avènement du Seigneur, eh bien, il parlait de cette fin des temps. Pour eux, Jésus, il pouvait débarquer comme ça. Eh bien, la fin des temps, c'était l'inauguration de ce royaume-là, de notre royaume à nous, le royaume de l'Église. D'accord ? C'est pas encore le royaume céleste. Ok ? Dieu règne au ciel, mais nous, il y a le déjà et le pas encore. Vous voyez, on est à cheval entre les deux. Et c'est, en fait, c'est ce qui se passe là. Les apôtres, ils savaient pas trop. Ils pensaient que le Seigneur allait revenir instaurer son royaume tout de suite. Ça fait 2000 ans qu'on est dans la fin des temps, les amis. Parce que c'est ça. C'est l'inauguration de cette période-là. L'inauguration de l'Église qui a lieu ici. Et ça fait 2000 ans que ça dure. Mais on passerait à côté. Je ne vais pas rentrer dans l'interprétation de la prophétie, c'est assez complexe, mais quand même, je vais juste retirer un élément clé. Vous avez repéré une expression que j'ai surlignée en jaune ici. Deux fois, il mentionne le fait qu'il va répandre son esprit. « Je répandrai mon esprit sur toute chair », verset 17, et regardez le verset 18, « Je répandrai de mon esprit », et ils prophétiseront. Et en fait, l'accent, il est porté ici. C'est ce qu'il a envie de faire ressortir, c'est que c'est l'avènement de l'Esprit. Donc ce qui se passe là, les amis, en ce moment, c'est parce que c'est l'avènement de l'Esprit, il vient changer les choses. Et quand un juif entendait, répandrait de mon esprit sur toute chair, il pensait immédiatement à Ézéchiel 36, comme vous, j'imagine. Non ? J'imagine mal ? Ézéchiel 36, vous connaissez ce texte parce que vous l'avez très certainement entendu de la bouche de John. Verset 25, « Je ferai sur vous » et là il est en train de parler d'une période qui va arriver. Et c'est la période de la Nouvelle Alliance. Regardez ce qu'il dit. « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. En fait, Ézéchiel prophétise sur ce temps de la fin. En fait, il prophétise sur l'ère de l'Église, sur la nouvelle alliance. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va venir faire sa demeure en nous. Voyez, il va graver sa loi en nous, sur tous les cœurs. Ça, c'est un changement complet d'alliance. Et il allait venir sur toutes les nations. Il allait pardonner tous nos péchés, définitivement. C'est ce qu'il dit. Il va nous purifier, il va répandre une eau pure et on sera totalement purifiés. Il n'y aura plus besoin de faire de sacrifices. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui a payé pour toutes. Une fois pour toutes, Jésus a payé pour l'ensemble des sacrifices. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit choisit de mettre l'inauguration. C'est « Ok les amis, maintenant on va inaugurer cette ère et donc feu d'artifice. » D'accord ? Et c'est ce qui se passe ici. Donc vous voyez, quand on lit ce texte-là, il ne faut pas passer, parce qu'il y a plein de trucs où on se dit, mais attends, c'est quoi ces gens qui prophétisent et tout. Vous embarrassez pas avec ces questions-là pour le moment, c'est un peu compliqué à répondre, mais regardez l'essentiel, je répandrai mon esprit, et ça c'est la nouvelle alliance. C'est l'alliance dans laquelle on vit nous. Et vous voyez comment il termine son discours. Il termine son discours avec cette phrase. En parlant, alors c'est pas celle qui est sous vos yeux, excusez-moi, il la termine ici, le verset 20. « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. » Le jour du Seigneur, mes amis, c'est le bilan annuel. le bilan de votre vie, parce que c'est le jour où Dieu va venir juger. Il va punir tous les ennemis. Pour celui qui est en Christ, pour celui qui est avec Yahweh dans l'ancienne alliance, c'est un jour magnifique, parce que c'est la fin des souffrances. On sait qu'on va être avec notre Dieu, on sera dans son royaume, ça sera éternel, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de souffrances, il n'y aura plus de cancer, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de tentations, il n'y aura plus de péché. Ce sera génial. Magnifique. Pour celui qui croit. Et pour celui qui ne croit pas, ça veut dire le jugement. C'est le jugement final. Le jour du Seigneur, c'est là où on va tirer un bilan, les amis. Ok, qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? Et en fait, c'est pas pour rien qu'il a inclus ce verset-là, parce qu'il va donner la solution derrière. Ça, c'était magnifique pour les croyants. Mais la plupart des juifs, ils brillaient pas, là. Ils brillaient pas. C'est magnifique quand on sait que tous nos péchés sont pardonnés et purifiés. Mais quand on sait qu'on doit probablement aller faire des sacrifices, vous savez, on a encore une ardoise. Et donc, ils n'étaient pas sûrs. Le croyant qui place sa foi en Christ, il est assuré de ces choses-là parce qu'il a été purifié, il a été lavé, il a été sanctifié, il a été pardonné. Vous voyez, et ça, c'est génial pour les croyants, mais pas pour les autres. Et regardez, et c'est le troisième et dernier point, c'est l'objectif de la venue de l'Esprit. Verset 21, « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est la phrase de Joël. D'accord ? Et là, on se dit, waouh ! En fait, l'objectif de la venue de l'Esprit, c'était de révéler Jésus comme le Messie et de sauver le peuple juif. Vous voyez ? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Moi, je pense que là, il n'y a pas plus clair comme message. C'est-à-dire, ce jour-là du Seigneur, il va arriver. Eh bien, tu as encore une chance. Invoque mon nom et tu seras sauvé. Invoque mon nom et tu seras sauvé. Et vous voyez, maintenant, pourquoi il y a eu tout ce feu d'artifice ? Pourquoi Jésus a fait un spectacle ? C'était pour attirer les regards des Juifs sur cet événement-là. Et regardez ce qu'il dit la suite. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu, devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Pierre voulait simplement amener les Juifs à la repentance. Et ça devait passer par la reconnaissance de leur culpabilité. Vous avez remarqué au verset 23 la phrase hyper culpabilisante qu'il donne. Franchement, si vous évangélisez comme ça, vous n'allez pas avoir beaucoup de fruits. Hein. Regardez. Celui que vous avez crucifié. Wow! Ça, c'est une attaque frontale. C'est marrant parce que quand Pierre était pas très loin du poteau du supplice de Jésus, quand il y a une servante qui est venue le voir, il lui a pas dit « Tu as crucifié !» Il est parti en courant. Il n'a pas osé affronter. Il n'a pas osé affronter. Et d'ailleurs, il prend des pincettes parce qu'il dit « Vous inquiétez pas, je sais que ce n'est pas vous qui l'avez crucifié, ce sont les Romains, hein, les impies, les païens là. C'était les Romains qui l'avaient crucifié, techniquement, c'est vrai. Mais, qui c'est qui l'a fait condamner ? Qui c'est qui a poussé au faux procès ? Qui a été chercher des faux témoignages ? Et ils le savaient, les Juifs. C'était eux. C'était eux. Ils ont tout fait pour éliminer Jésus. Et ils y sont parvenus. Mais c'est parce que Jésus le voulait bien. C'était défini à l'avance, selon la préscience de Dieu, selon le dessein arrêté de Dieu. Personne n'aurait pu l'empêcher, mais ils sont responsables. Et c'est ça la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. C'est qu'il est au contrôle de l'histoire, parfaitement. La mort de Jésus n'est absolument pas une erreur. C'est absolument pas une faiblesse de Jésus, ni de Dieu qui n'était plus souverain à ce moment-là, parce que c'était prévu. Mais il va utiliser les circonstances humaines, le cœur mauvais des impies, le cœur tortueux des juifs, tout ça pour faire aboutir à la croix. Mes amis, quand Pierre se présente devant une multitude de juifs, il est probablement vers le temple, ils sont tous rassemblés, les 120 sont avec lui. Il parle, et là on se dit, mais c'est plus le même Pierre. Ben oui, c'est plus le même Pierre. Le gars qui s'est tiré en reniant Jésus, il revient là. Superman ! Ben oui, il a reçu the power, la puissance. Souvenez-vous de Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, etc. En fait, il a reçu l'Esprit principalement pour ce qu'il est en train de faire maintenant. Ce n'était pas pour faire des miracles, c'était pour proclamer Christ et Christ ressuscité. C'était là où il voulait arriver. C'est là l'atterrissage, c'est là l'objectif de tout ce spectacle, les amis. C'est Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est le message que les Juifs avaient besoin d'entendre. Et c'est probablement le message que tous les humains de la planète, c'est pas probablement, c'est sûr, c'est le message que tous les humains de la planète ont besoin d'entendre. Et vous avez besoin de l'entendre, vous aussi, ce matin. Vous imaginez ce qui se passe ici, c'est fantastique. Fantastique. Dieu équipe ses croyants, principalement pour être des témoins dans le monde. Je conclue ici. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé ce matin. Est-ce que vous étiez découragé d'une semaine difficile ? Votre époux, votre épouse vous a cherché des noises, ou j'en sais rien, votre patron vous est tombé dessus, il vous est arrivé une galère, enfin, on peut imaginer plein de choses. On est dans un monde pécheur, les amis, et donc c'est normal qu'on vive ces choses. Alors peut-être que vous arrivez là en disant « j'en ai ras-le-bol ». Peut-être c'est un frère qui vous a dit un mot, vous l'avez mal compris, puis ça fait un imbroglio, je ne sais pas. Vous êtes dans le brouillard ce matin. Alors je vous invite à faire comme on a fait hier quelque part, à prendre du recul, à monter, à vous élever au-dessus des nuages. Et c'est ce que Jésus veut faire ici ce matin. Hier, on a fait ça, on a pris notre voiture et on a fait juste quelques kilomètres et on s'est élevé au-dessus de tout ce qu'il y avait là, qui était noir, qui était brouillardeux, et on est arrivé dans un spectacle fantastique. En prenant de la hauteur, on va retrouver le soleil. Notre vue, elle s'est allongée quand on était en haut, parce qu'au départ, on voyait jusqu'à 5 mètres, vous voyez ? Eh bien, quand on est passé au-dessus, waouh, on a vu un spectacle extraordinaire. On voyait très très loin, on a vu la chaîne du Mont Blanc qui s'est dessinée, et on voyait ces choses de loin. Eh bien, c'est ce que Dieu veut faire en nous donnant l'esprit, les amis. Il veut nous ouvrir les yeux sur un autre monde, sur un monde merveilleux, un monde qui est inaccessible aux humains. Mais pour cela, il faut reconnaître notre culpabilité devant lui. Nous, finalement, on est comme les Juifs que Pierre accusait d'avoir tué Jésus. On ne l'a pas tué directement avec nos propres mains, mais avec nos fautes, avec notre égoïsme, avec notre péché, on l'a condamné à aller jusqu'à la croix. Et donc, finalement, on est autant responsable que ces Juifs qui ont fait crucifier Jésus. Parce que notre péché crucifie Jésus. Je ne sais pas si vous vous sentez lourd, mais si vous voulez vous élever, mes amis, moi je vous invite à prier avec moi maintenant. À invoquer le Seigneur, comme nous dit Pierre ici. Celui qui invoquera le Seigneur sera sauvé. C'est-à-dire celui qui va placer toute sa confiance. Pas celui qui va croire en Dieu parce qu'il y a des miracles, mais parce que vous allez placer votre confiance, vous confier votre vie, l'ensemble de votre vie, tous les détails de votre vie à votre Créateur.